Pour commencer cette seconde partie, je vais appeler mon collègue Luis Quintana Murci, qui est directeur scientifique à l'Institut Pasteur, et qui va vous parler, qui va dans le fond continuer l'histoire que j'ai amorcée ce matin, en vous parlant de la façon dont les hommes, du point de vue génétique, se sont adaptés à différentes conditions de milieu, en particulier en ce qui concerne les agents pathogènes.
Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et je me suis permis aussi, dans la pause, de changer un peu le titre, comme mon prédécesseur. Et donc, je vais vous parler un peu de génétique et histoire de l'homme, mais en me focalisant sur les migrations humaines, comment, lors de ces migrations humaines, l'homme s'est adapté à son environnement, et comment aussi le métissage entre différentes populations a aidé à cette meilleure adaptation à l'environnement. Donc, juste pour vous rappeler un peu la dernière décennie, voire 20 ans en génétique humaine, on est passé du séquençage en 2000 ans du génome humain, qui a été extrêmement utile pour mieux comprendre la structure des gènes, mais en aucun cas nous a renseigné ni nous a donné l'outil dont on a besoin en génétique humaine, en génétique médicale et surtout en génétique des populations, que c'est la diversité génétique. Les différences qu'il peut avoir entre nous, d'une même population, ou entre différentes populations humaines. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a eu différents consortiums internationaux qui avaient comme but principal de caractériser toute cette diversité génétique entre individus et populations humaines. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait qu'il y a très peu de diversité entre populations humaines et que si on prend deux individus au hasard dans la population, quelle qu'il soit son origine ethnique ou géographique, on va trouver juste environ 0,1% de différence, ce qui quand même sur 3 milliards de bases qui fait notre génome, nous reste 3 millions de différences entre individus pour pouvoir travailler. On sait aujourd'hui aussi que la plupart de ces différences n'ont pas de conséquences, en tout cas de conséquences connues sur le phénotype, et que ça va être l'étude de ces mutations qu'on appelle neutres, l'étude de la distribution de ces mutations entre populations humaines qui va nous aider à mieux connaître nos origines et à reconstruire les différentes migrations humaines. Une partie de ces mutations, que j'ai mis ici en rouge, vont être associées à la variabilité phénotypique, c'est-à-dire la variabilité phénotypique bénigne, comme simplement nos différences apparences physiques. Mais une partie de cette diversité génétique va aussi être impliquée à nos différentes adaptations génétiques au climat, à l'altitude, on va voir un exemple. Une partie de ces différences génétiques explique aussi pourquoi on ne métabolise pas tous de la même façon certains aliments, comme le lait. Et une partie de ces différences génétiques, et ça c'est un des intérêts principaux de mon laboratoire, va aussi déterminer, en tout cas influencer, la façon dont on répond différemment à l'infection. Donc, quelles sont les forces déjà qui façonnent toute cette diversité génétique? Évidemment, il y a des forces très basiques, comme la mutation ou la recombinaison, des forces génomiques. Il y a aussi des forces démographiques. Quand une population en expansion démographique va montrer bien plus de diversité génétique que des populations qui ont subi des effets fondateurs, ou des goulots d'étranglement, c'est-à-dire des réductions de sa taille efficace, comme les Finlandais, les Islandais, les Québécois. Et aussi, on a la sélection naturelle, c'est-à-dire comment certaines mutations vont nous permettre de mieux nous adapter à l'environnement qu'on va rencontrer, et ces mutations-là, parfois, vont augmenter en fréquence dans la population générale. Toute cette force génétique, toutes ces forces, vont influencer... Toutes ces forces vont influencer la diversité du génome humain, qui à son tour va influencer la diversité phénotypique, que ce soit au sein d'une population ou entre différentes populations humaines. Donc, depuis ces 20 dernières années et depuis les premières études que Jean-Jacques Hublin parlait de l'ADN mitochondrial hérité par la mère ou le chromosome Y hérité par le père, jusqu'à il y a 3 semaines avec les derniers. 3 papiers dans Nature basés sur des génomes complets, il y a un grand consensus sur plusieurs messages. 1. Notre espèce est une espèce très faible qui présente une très faible diversité génétique par rapport à d'autres espèces de primates, comme vous pouvez voir ici, les orang-outans, les gorilles ou les chimpanzés. Deuxième chose, notre espèce s'est originée en Afrique. Vous voyez ici, ça c'est un arbre phylogénétique basé sur des données de plusieurs millions de mutations tout au long de notre génome. On peut voir que les Africains présentent plus de diversité génétique et que les non-Africains, pas seulement présentent moins de diversité génétique, mais trouvent leurs racines dans les populations africaines. Troisième chose, on peut avoir, malgré cette faible diversité génétique qu'il y a entre nous, on peut avoir une certaine structure génétique à niveau continental. Vous pouvez voir ici, c'est une analyse en composant principal sur environ 3000 Européens. Plus deux points sont loin, plus sont différents génétiquement. On peut voir que ça miroie parfaitement la carte géographique de l'Europe, avec la France ici, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. Ce que soutient le modèle d'isolement par la distance, c'est-à-dire plus deux individus ou deux populations sont lointaines, plus diverses seront d'un point de vue génétique. Et on peut avoir des niveaux de structure extrêmement fines, comme ça a été montré par exemple au Royaume-Uni, ou aussi les différences qu'il peut avoir au centre de la France, l'Allemagne, etc., jusqu'à au point où on peut avoir évidemment des différences, même à niveau familial. Quel serait le résumé de ce que la génétique nous raconte aujourd'hui sur les grandes migrations humaines? On sait aujourd'hui qu'on est apparu, notre espèce en Afrique, il y a 200 000 ans, et la première grande migration de notre espèce s'est faite il y a environ 40 et 80 000 ans, quand l'homme quitte l'Afrique. Nous sommes tous ici, en tout cas ceux entre nous qu'on est d'origine européenne ou asiatique, nous faisons partie de la première vague de migrants. On sort, il y a le premier grand effet fondateur pour fonder l'Europe et l'Asie du Sud très tôt et l'Australie. Après, on a des migrations qu'on a pu reconstruire aussi grâce à la génétique dans les temps préhistoriques, comme les migrations bantoues au centre de l'Afrique, dont je vais y revenir en détail, ou par exemple la colonisation de la Polynésie il y a entre 1000 et 4000 ans. Et aussi, on peut reconstruire aujourd'hui, avec la génétique, des migrations beaucoup plus récentes, comme par exemple les mouvements des Européens en Afrique du Sud ou des populations du sud-est asiatique en Afrique du Sud, ou les migrations forcées des Africains vers les Amériques lors de la traite d'esclaves. On sait, comme Jean-Jacques Hublin disait aujourd'hui aussi, qu'on sait mélanger avec l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova, et on sait que les Européens d'aujourd'hui, on a environ 2% de notre génome qui viendrait de ce métissage avec Néandertal, et environ 6% des populations de l'Asie du Sud-Est, notamment en Mélanésie, 6% de leur génome est d'origine denisovienne. On sait aussi aujourd'hui que c'est 2% ou 6%, c'est une estimation, c'est une moyenne du génome, mais le génome va varier énormément. Si on fait un scan du génome, on va avoir beaucoup de régions de notre génome qui sont 0% néandertaliennes, mais on va avoir certaines régions du génome qui peuvent aller jusqu'à 65% d'origine néandertalienne. Et c'est ça qu'on va explorer dans quelques minutes par rapport à nos réponses immunitaires. Donc, juste pour partager avec vous des données qui sont sorties il y a environ 3 semaines, basées sur 300 génomes complets. Et ce qu'on continue à trouver, c'est en gros toujours la même chose. C'est beaucoup de diversité en Afrique, les populations non africaines étant des sous-branches des populations africaines. En soutien du modèle d'isolement par la distance, c'est-à-dire plus on s'éloigne de l'Afrique, plus on est différent, évidemment. Et c'était confirmé, le métissage en Europe et en Asie avec Néandertal, plus intense en Asie qu'en Europe, et le métissage avec Denisova, surtout en Asie du Sud-Est, et beaucoup en Mélanésie. Mais lors de ces migrations dont on vient de parler, on a dû aussi s'adapter à l'environnement qu'on a retrouvé. En tout cas, à l'environnement que les premiers Africains qui ont quitté l'Afrique, ils ont retrouvé en Europe, en Asie, et aux Amériques. Différents environnements climatiques, différentes ressources nutritionnelles et aussi différents pathogènes qu'ils ont rencontrés. Donc, on va commencer par un exemple très représentatif de l'adaptation aux ressources nutritionnelles, que c'est la tolérance au lait. Vous savez que notre état, on va dire, ancestral, c'est après la période de sevrage, l'enzyme qui va nous aider à métaboliser le lait va chuter considérablement et la plupart de nous devront être, entre guillemets, intolérants au lactose. Ce qui n'est pas le cas, comme vous pouvez voir ici, en bleu, c'est les fréquences du trait tolérance au lactose, c'est-à-dire capacité de continuer à boire du lait à l'âge adulte. En Europe du Sud, c'est environ entre 40 et 50% de la population continue à boire du lait, et on arrive en Europe du Nord à des fréquences de presque 98% chez les Finlandais. On sait aujourd'hui aussi qu'en Afrique, certaines populations de pastoralistes continuent à boire du lait à l'âge adulte. Ça a été montré que les bases génétiques de ce trait sont différentes en Europe et en Afrique, sont sous très forte pression de sélection positive, c'est-à-dire ces mutations indépendantes qui ont donné la capacité aux Africains et aux Européens de continuer à boire du lait à l'âge adulte, se situent entre les 10 mutations qui montrent une pression de sélection positive les plus fortes de tout notre génome. Et ça a été daté l'âge à laquelle cette sélection naturelle positive a commencé, et ça coïncide à l'âge où aussi bien les Africains que les Européens ont commencé à faire la transition d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode de vie agriculteur-sédentaire. Un exemple assez intéressant aussi de l'adaptation au climat, c'est l'adaptation à la vie en altitude. Vous savez qu'il y a certaines populations, comme les Tibétains par exemple, qui habitent à 4000 mètres, où la concentration d'oxygène est environ 40% moindre que dans les plaines. Donc ces chercheurs-là, ils ont voulu comprendre les bases génétiques de l'adaptation à l'altitude, et pour cela, ils ont comparé deux populations que d'un point de vue génétique sont presque pareilles, c'est quand on a plus de puissance en génétique, c'est-à-dire la population du Tibet et la population des Chinois Han. Évidemment, quand on compare leur génome, on voit que la plupart des fréquences alléliques, c'est-à-dire tous les polymorphismes de ces deux mutations, se situent sur la diagonale, c'est-à-dire que si une mutation est à 10% chez les Tibétains, elle va être à 10% environ chez les Chinois Han. Mais ils ont cherché des mutations que ne suit pas ce modèle, et ils ont pu identifier deux mutations dans ce gène, qui s'appelle EPAS1, que c'est un gène qui est impliqué dans les niveaux d'hémoglobine dans le sang et qui aurait aidé aux Tibétains à mieux s'adapter à cette vie extrême de vie en altitude. D'autres études ont continué suite à celui-là pour essayer de comprendre si les bases génétiques de l'adaptation à l'altitude sont les mêmes en Éthiopie, aux Andes, en Amérique du Sud. Et ce qui est intéressant, et un cas un peu comme le même du gène de la lactase, c'est-à-dire notre capacité de boire du lait à l'âge adulte, ils ont trouvé d'autres gènes et d'autres mutations qui sont impliquées dans l'adaptation à l'altitude dans ces autres populations habitant dans des conditions extrêmes. Mon laboratoire, dans notre cas, s'intéresse à un autre type de pression environnementale que sont les pathogènes et les maladies infectieuses. Pourquoi ? On sait aujourd'hui que l'espérance de vie des populations humaines était extrêmement faible jusqu'à hier, on va dire, d'un point de vue évolutif. Vous pouvez voir ici en jaune, c'est le Royaume-Uni, il y a 120 ans, juste il y a 120 ans, qu'environ 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Si on voit le Royaume-Uni aujourd'hui, en tout cas dans l'année 2000, vous pouvez voir que 98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Avec que 120 ans de différence, on a augmenté énormément l'espérance de vie, évidemment, grâce à tout ce qui est arrivé au début du XXe siècle, amélioration de l'hygiène, antibiotiques et vaccins. On peut voir malgré tout que certaines populations, Mozambique ici, la même année que le Royaume-Uni, on peut voir que environ 50% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Pas seulement les maladies infectieuses ont été une cause de mortalité majeure dans notre histoire, mais on a aussi des cas de sélection naturelle extrêmement bien montrés dus aux pathogènes. Un cas presque d'école serait l'avantage qu'on a si on est hétérozygote par l'allèle S de l'hémoglobine, qu'on va être plus protégé contre le paludisme à Plasmodium falciparum, même s'il y a un prix à payer, c'est-à-dire que les individus homozygotes, c'est-à-dire ceux qui ont les deux versions de l'allèle S, vont développer une drépanocytose. Ça, c'est juste un exemple comment une mutation perte de fonction, que parfois on a l'impression que perdre une fonction, ça peut être quelque chose de délétère, peut être quelquefois avantageux et bien pour une meilleure adaptation. Si une mutation perd de fonction dans le gène DARC, c'est le système de Fee, en gros, que les individus, que cette mutation a augmenté en fréquence en Afrique jusqu'à arriver à presque fixation, c'est-à-dire presque 100% de fréquence dans l'Afrique centrale, parce que les individus qui portent cette mutation perdent de fonction, n'ont pas un récepteur, et le fait d'avoir perdu ce récepteur va empêcher Plasmodium vivax d'infecter la cellule. Au cours de ces dernières années, nous nous sommes intéressés à essayer de disséquer les signatures moléculaires de la sélection naturelle dans notre génome. Et notamment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on s'intéresse à la sélection purifiante, c'est-à-dire celle qui va nous débarrasser à nous tous des mutations que sont délétères, ou la sélection positive, que c'est celle qui va favoriser l'augmentation d'une mutation, ici en rouge, dans la population, parce que dans ces cas-là, la mutation nous amène un avantage évolutif pour une meilleure adaptation, que ce soit au climat ou aux pathogènes ou à d'autres facteurs. En utilisant cette approche de génétique des populations, au cours des dernières années, on a pu disséquer la relevance biologique de certaines familles de gènes qui sont impliquées dans le système de l'immunité innée. L'immunité innée, comme vous savez, c'est tout un système que, quand on est infecté, va venir à tout un système cellulaire de récepteurs qui vont reconnaître qu'un pathogène, par exemple, est rentré dans notre corps. Donc, on a pu identifier des récepteurs de notre système immunitaire qui jouent un rôle essentiel et non redondant dans nos défenses contre les pathogènes. Et aussi, on a pu identifier, sur la base des signatures laissées par la sélection naturelle, d'autres gènes qui joueraient une fonction plus redondante. Récemment, on a voulu faire ce type d'analyse en utilisant tous les gènes de notre système immunitaire, c'est-à-dire environ 1500 gènes, et comparer les profils de diversité génétique de tous nos gènes de l'immunité innée par rapport à la reste du génome à deux niveaux. Tout d'abord, on s'est demandé dans quelle mesure les gènes du système immunitaire inné sont plus contraints, c'est-à-dire ils évoluent sous sélection purifiante, c'est-à-dire des gènes qui ne peuvent pas ou très peu accumuler de la variabilité fonctionnelle que le reste du génome. Et la réponse est oui. Les gènes de l'immunité inné montrent en moyenne plus de contraintes sélectives que le reste du génome. On a pu identifier les gènes du système immunitaire inné qui seraient plus contraintes de tout le génome, parce que ces gènes-là, on prédit, sur la base de la génétique de population, que ce sont des gènes qui seraient impliqués dans des maladies sévères, notamment des maladies pédiatriques. Et la preuve du concept que notre approche bien prédit cela, c'est que deux de ces gènes, donc TRAF3 et STAT1, ont été déjà associés à l'encéphalite herpétique et à la susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est dans quelle mesure la sélection positive, c'est-à-dire comment l'adaptation des différentes populations humaines, Afrique, Europe et Asie, a aidé à favoriser l'augmentation en fréquence de certaines mutations pour mieux permettre à ces populations de s'adapter à l'environnement pathogénique. Ceci nous a permis d'identifier certains gènes sur sélection positive très forte, comme par exemple CD36 qui protège contre le paludisme dans les populations africaines, ou TLR1 qui est associé à une réponse inflammatoire moins forte dans les populations européennes, ceci ayant conféré un avantage évolutif. Notre approche nous permet pas seulement de dire ce gène a été sous sélection positive en Afrique, ou en Asie, ou en Europe, mais d'identifier les mutations les plus causales que seraient associées au phénotype d'intérêt. Et finalement, on s'est dit, et tous ces événements d'adaptation à l'environnement, ils sont arrivés quand ? On peut dater l'âge à partir de laquelle les événements de sélection positive sont arrivés. Il y en a trouvé que dans la plupart des cas, les âges estimés de sélection tombent entre il y a 6 000 et 13 000 ans, que coïncide à nouveau avec la période de transition de l'homme vers un mode de vie agriculteur. La dernière question qu'on s'est posée, c'était, en sachant qu'on sait qu'on s'est mélangé avec Néandertal, est-ce que les gènes de l'immunité innée présentent plus ou moins d'origine néandertale, à nouveau, que la reste du génome? Et la réponse est oui, que ce soit en Europe ou en Asie, les gènes de l'immunité innée présentent un taux d'introgression de Néandertal plus fort que la reste du génome. Ceci nous a permis aussi d'identifier un groupe d'environ 80 gènes chez les Européens et chez les Asiatiques impliqués dans l'immunité innée et qui présentent des taux d'introgression de Néandertal extrêmement élevés. Des gènes qui sont impliqués, par exemple, dans la réponse aux infections virales ou dans une moindre réponse inflammatoire. Plus récemment, avec une étude sur l'expression de gènes, ce qu'on a pu montrer ici, c'est que l'introgression néandertalienne a principalement affecté nos réponses aux infections virales. Toutes ces conclusions, toutes ces observations qu'on a faites, comme vous pouvez voir, on se base sur des grandes populations, Afrique, Europe, Asie. Mais un des intérêts aussi principaux de mon laboratoire, c'est l'Afrique, et tout particulièrement l'Afrique centrale. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à comment la transition entre un mode de vie chasseur-cueilleur nomade et un mode de vie agriculteur sédentaire a influencé pas seulement notre histoire démographique, mais aussi notre adaptation à l'environnement. En Afrique, on sait que l'agriculture s'est originée dans cette région-là, entre le Cameroun et le Nigeria, et qu'avec les langues dites bantoues, l'agriculture se serait déplacée dans tout le reste du continent. Et pourquoi l'Afrique aussi ? Parce qu'en Afrique, on a des populations qui continuent à baser leur mode de vie sur la chasse et la cueillette, quand les populations de langue San en Afrique du Sud et le Namibie, les Hadza ou les Sandawe en Afrique de l'Est, et après une autre population, que c'est la plus grande population de chasseurs-cueilleurs qui existe encore, que sont les chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale, dites pygmées. On a deux grands groupes de pygmées, les pygmées de l'Ouest, situés entre le Gabon et le Cameroun, et les pygmées de l'Est, plutôt en Ouganda et Rwanda. Donc, ça fait déjà presque 10 ans qu'on étudie les profils génétiques et les interactions génétiques entre ces deux populations en collaboration très étroite avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et en étudiant la génétique de différents groupes de pygmées de la forêt et différents groupes de villageois, une des premières choses qu'on avait observées, on a pu reconstruire l'âge à partir de laquelle ces populations ont commencé à diverger. On a pu voir tout d'abord que les ancêtres des pygmées ont commencé à diverger de ceux qui après sont devenus les agriculteurs il y a environ entre 3 et 5 000 ans, il y a déjà 60 000 ans, plus ou moins à la même date où l'homme quitte l'Afrique. On a pu voir aussi que les deux grands groupes de pygmées actuels, les pygmées de l'Ouest et les pygmées de l'Est, ont commencé déjà à se séparer il y a 20 000 ans. Plus récemment, on a étudié le niveau de métissage entre ces deux populations et on a pu voir effectivement, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'il y a eu du métissage important entre les agriculteurs, ici plutôt en rouge, et les pygmées, ici plutôt en vert. Vous pouvez voir que dans les différents groupes de pygmées, on a du rouge. Ça, c'est une analyse génétique qui structure les populations en différentes unités, on va dire, génétiques, mais que ce métissage est très récent, de moins de 1000 ans. Et aussi, et d'une façon assez intéressante, on a pu challenger un peu le dogme comme quoi l'arrivée de l'agriculture en Afrique aurait impliqué des changements très forts dans les régimes démographiques des populations. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les pygmées sont caractérisés, leur histoire démographique, par des forts goulots d'étranglement, mais qui sont arrivés il y a entre 10 000 ans et 30 000 ans. Tandis que les agriculteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les agriculteurs bantous, se caractérisent par des expansions démographiques, mais qui datent d'il y a environ 7 000 et 10 000 ans, ce qui montre que les différences de régime démographique entre pygmées et agriculteurs prédatent l'âge à laquelle l'agriculture s'est originée en Afrique, ce qui soutient l'hypothèse que les agriculteurs étaient déjà une population de chasseurs-cueilleurs de grande taille efficace, et ça serait pour cela que cette population a été plus à même d'adopter et transmettre après la nouvelle technologie de l'agriculture. Aussi, on s'est intéressé, ça beaucoup plus récemment, à essayer de reconstruire les migrations des peuples bantous en Afrique. On sait, comme je vous disais tout à l'heure, que l'agriculture s'est originée dans cette région de l'Afrique, mais on ne sait pas encore très bien la façon dont ces peuples ont colonisé après le reste de l'Afrique. Il y a deux grandes hypothèses. Une première hypothèse qui dit qu'à partir du foyer d'origine de l'agriculture, les Bantous auraient contourné la forêt équatoriale pour aller à l'est de l'Afrique et après vers le sud. Tandis que le deuxième modèle, c'est un modèle qui dirait qu'il y a environ 3000 ans, à partir du foyer d'origine, les premiers peuples bantous auraient traversé la forêt équatoriale vers le sud, et c'est après, à partir de ce deuxième foyer, que ce serait qui aurait migré vers l'est de l'Afrique et après vers le sud. On a voulu aussi comprendre si, lors de ces migrations, les peuples bantous se sont adaptés rapidement aux différents environnements qu'ils ont rencontrés, la forêt équatoriale, les grands plateaux de l'Afrique de l'Est, le désert du Kalahari au sud. Et finalement, on a voulu savoir comment ils ont interagi avec les populations locales de chasseurs-cueilleurs qu'ils ont rencontrées tout au long de ces migrations. Première question par rapport aux routes empruntées par les peuples bantous. Pour cela, on a étudié plus de 1000 individus de différents population de langue bantou en Afrique ici de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et la première chose qu'on a vue, c'est que quand on étudie les populations bantoues de l'Afrique de l'Est, on voit que ces populations parentales sont plutôt au sud du foyer d'origine des langues bantoues, c'est-à-dire entre le Gabon et l'Angola. Quand on étudie les populations bantoues de l'Afrique du Sud, on voit que ces populations parentales, c'est surtout des populations du sud du foyer des langues bantoues d'origine, avec du mélange, évidemment, avec les populations locales des peuples San. Donc notre étude soutient le modèle du, comment dire en anglais, du late split, c'est-à-dire que d'abord ils traversent la forêt équatoriale et c'est juste après que les populations ils ont commencé à migrer vers le reste de l'Afrique. Deuxième réponse aux questions, par rapport au métissage. Ce qu'on a pu montrer, comme vous pouvez voir ici, que ce soit les Bantous de l'Ouest, ici, les Bantous de l'Est, ici, ou les Bantous du Sud, ici, que les Bantous de l'Ouest, tout le monde rouge, mais ils ont du vert. Le vert, on voit que ça vient des chasseurs-cueilleurs pygmées. Quand on regarde à l'est, on voit que les populations de Bantous de l'Est, ils ont aussi du rose ou du purpre, je ne vois pas très bien, et on voit que ça vient du mélange avec les populations de langues sémitiques, couchitiques et autres qu'ils ont retrouvées en Afrique de l'Est. Et enfin, on voit que les populations Bantous du Sud se sont mélangées avec cette composante jaune ici, qu'on la retrouve ici, parce qu'on en a très peu, des peuples San de l'Afrique du Sud. Deuxième chose qu'on a montré, c'est que tout au long de ces migrations, ces peuples bantous se sont adaptés à l'environnement qu'ils ont rencontré, et notamment à l'environnement pathogénique, avec des signatures de sélection très fortes dans le système HLA, aussi bien chez les bantous de l'Ouest que les bantous de l'Est, et que dans certains cas, cette adaptation à l'environnement a été facilitée par le mélange avec les populations locales qu'ils ont rencontrées. Par exemple, les Bantous de l'Est ont acquis des populations locales la mutation qui permet à nouveau de continuer à boire le lait à l'âge adulte. Ce qui montre que pas seulement le métissage peut être intéressant, mais avantageux d'un point de vue même biologique, parce que ça nous permet d'emprunter des mutations des peuples qui sont adaptés à son environnement. Et enfin, pour finir ces quatre dernières minutes qui me restent, je voudrais vous parler d'un autre type de, pas d'adaptation, mais de réponse à l'environnement que serait l'épigénétique. L'épigénétique, comme vous savez, c'est des changements dans la fonction de nos gènes, mais qui ne sont pas dus à des changements dans la séquence de notre ADN. Notre modèle d'étude des profils épigénétiques, c'est la méthylation de l'ADN, qu'en gros, vous avez un gène ici, et si le promoteur du gène, pour être simpliste, n'est pas méthylé, le gène sera exprimé. Mais si le promoteur du gène est méthylé, le gène ne sera pas exprimé. Et même si on compare ces deux gènes-là, il n'y a aucune différence d'un point de vue génétique, c'est-à-dire d'un point de vue séquence de l'ADN. Donc, on a voulu comprendre l'impact du mode de vie, de l'habitat et de la génétique sur les profils épigénétiques de population. Et pour cela, on a étudié notre modèle préféré, à nouveau, l'Afrique centrale, parce qu'on trouve une richesse culturelle, mode de vie, habitat et génétique extrêmement importante. Donc pour cela, ce qu'on a comparé, c'est deux populations d'agriculteurs que la seule chose qui les distingue, c'est leur habitat. Ici, des agriculteurs, disons, classiques, habitant dans des régions urbaines ou rurales, par rapport à des agriculteurs de la forêt. Donc, même mode de vie, même génétique, la seule différence, l'habitat. Et là, on va parler de différences de méthylation récentes. Tandis qu'ici, on va comparer le même habitat, tout le monde est dans la forêt, mais une population d'agriculteurs et une population de chasseurs-cueilleurs. Donc, même habitat, mais différents modes de vie historiques, chasseurs-cueilleurs versus agriculteurs, et différentes génétiques. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que aussi bien les changements récents d'habitat ou les différences historiques en mode de vie, d'un point de vue quantitatif, ont le même impact sur le nombre de gènes que seront différemment méthylés entre populations. Environ 5000 ici, si on parle de différences d'habitat récentes, c'est-à-dire forêt versus milieu urbain ruraux, ou environ 4000 si on parle des différences qu'entre eux. Chasseurs-cueilleurs et agriculteurs en corrigeant par le même habitat. Mais quand on regarde quelles sont les fonctions dues aux différents récents d'habitat et quelles sont les fonctions qui devraient refléter les différences historiques entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs, on se rend compte que d'un point de vue qualitatif, les différences sont très importantes. Tandis que les changements récents d'habitat, en tout cas par rapport à cette marque épigénétique, que c'est la méthylation de l'ADN aurait affectait principalement la réponse immunitaire des populations, les différences historiques de mode de vie auraient principalement affecté le développement, les fonctions impliquées dans le développement. On a pu voir aussi que ces différences de méthylation historique, entre guillemets, sont sous fort contrôle génétique. C'est pour cela que ce serait héritable dans ces cas-là. Et on a pu voir aussi que ces gènes dont les profils de méthylation sont différents entre populations et c'est sous contrôle génétique, sont enrichis en certaines fonctions, comme par exemple la taille, un phénotype qu'on sait qui change considérablement entre les pygmées chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs bantous, et par exemple la densité minérale des eaux. Ce qui nous a permis de proposer un modèle que chez les plantes, comme toujours, sont plus avancées que dans les recherches que chez l'homme, un modèle d'adaptation à l'environnement. On dirait que dans un premier temps, on peut répondre à un changement environnemental par un mécanisme flexible comme c'est l'épigénétique, comme une façon de gagner du temps jusqu'au moment où il y aura une vraie mutation génétique, par vraie mutation, je veux dire un changement dans la séquence de l'ADN qui va permettre de pérenniser quelque part le phénotype adaptatif. Donc pour finir, quelques conclusions. On a vu que la génétique nous dit aussi que tous les humains d'aujourd'hui ont une origine récente en Afrique, il y a environ 200 000 ans, qu'il y a eu du métissage entre les hommes modernes et différentes formes d'hominines, comme les Néandertaliens ou les Denisoviens, de qui on a emprunté des mutations avantageuses, que quelles que soient les populations humaines, on s'est adapté à l'environnement qu'on a rencontré aussi d'un point de vue génétique. Et enfin, qu'en Afrique, les peuples bantous, lors de ces migrations à travers de l'Afrique subsaharienne, se sont métissés avec les différents peuples de chasseurs-cueilleurs, de qui ils ont également emprunté des mutations avantageuses, notamment pour l'adaptation aux pressions de sélection exercées par les pathogènes et aussi pour l'adaptation aux ressources nutritionnelles. Je vous remercie.